Un air d'actu avec Serge Carrel.
Voilà 2 ans, il a publié « Vie et destin de Jésus de Nazareth » aux éditions du Cerf à Paris. Daniel Marguerat, professeur honoraire à la faculté de théologie de Lausanne, a accepté de nous recevoir chez lui pour parler de Jésus et des paraboles. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'enseigne de ce grand entretien dans le cadre d'un air d'actu. Jésus, poète du royaume de Dieu, c'est l'un des chapitres du livre de Daniel Marguerat, Vie et destin de Jésus de Nazareth. C'est l'un des axes du premier entretien qu'il nous a accordé il y a peu. Parole à un spécialiste du Nouveau Testament à la pointe de la recherche historique et biblique d'aujourd'hui autour de la personne de Jésus de Nazareth. Dans votre livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth », vous dites à propos de Jésus et de son message qu'il est un poète du royaume, ou un poète du royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous entendez par une telle formule ?
J'ai essayé de montrer dans mon livre que si Jésus est totalement immergé dans le judaïsme, il manifeste une singularité, une unicité. Jésus a été un rabbi, Jésus a été un prophète, mais il l'a été de manière unique. Alors, quand je dis poète du royaume, je prends le terme poète dans son sens étymologique. Poète vient du grec poietes, et poietes vient du verbe poieo, faire. Le poète, étymologiquement, c'est celui qui fait avec les mots. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait avec les mots ? Jésus a été maître de paraboles, il a raconté beaucoup de paraboles, et ce qu'il a fait avec les paraboles, c'est de rendre visible le royaume. On verra tout à l'heure comment. Mais au fond, les paraboles ne sont pas des historiettes pour enfants sages. Elles ont, dans l'activité publique de Jésus, la fonction extrêmement importante de rendre visible la proximité de Dieu et la proximité du règne de Dieu dans le monde.
Alors, ce qui est impressionnant, c'est finalement lorsqu'on se met à faire une sorte de recension de ces paraboles, c'est de découvrir leur nombre dans les différents évangiles. Vous dites dans votre livre qu'il y en aurait 43.
Oui, effectivement. Les évangiles rapportent un nombre très important de paraboles, plus d'une quarantaine, effectivement. Bon, vous me direz, 3 ans d'activité publique, une quarantaine de paraboles, c'est pas énorme. Mais il faut comparer cela avec les paraboles qui sont rapportées des rabbis contemporains de Jésus ou postérieurs à lui, dans le Talmud, qui est la somme de l'érudition juive. Or, des grands rabbis, on ne rapporte que 4 ou 5 paraboles, pas plus. Jésus, plus de 40. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, qui n'a pas inventé la parabole, il l'a repris des rabbis populaires de son temps. Mais il en a fait un vecteur majeur de sa communication. Jésus a été un grand prédicateur populaire. Et sa vocation d'enseignant, il l'a concrétisée dans l'adoption justement de ce genre facile dans la communication qui est la parabole. Je disais rendre visible le royaume. Vous savez, dans le judaïsme au 1er siècle, on ne parle pas directement de Dieu. D'ailleurs, on ne prononce pas son nom non plus. C'est le saint, béni soit-il. On ne peut pas parler non plus directement du règne de Dieu. Et la parabole est une histoire qui va dire comment se concrétise, comment se manifeste cette proximité de Dieu.
Et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Jésus n'utilise pas, au niveau de ses paraboles, des mondes très intellectuels ou oniriques, mais il s'enracine de manière concrète dans le monde des gens qui l'écoutent.
Ça, c'est une originalité de Jésus. C'est une originalité fondamentale. C'est que, bon, tout le monde a à l'esprit les paraboles de la semence qui pousse toute seule, la parabole du semeur, la parabole du grain de moutarde, la parabole du père et de ses 2 fils, etc. Tout le monde a, ou des ouvriers de la 11e heure, tout le monde a à l'esprit de ces paraboles. Il faut donc bien réaliser que le monde de Jésus, le monde de ses auditeurs se reflète dans les paraboles. Vous savez, pour deviner à qui s'adressait Jésus, ben faut lire les paraboles. C'est un monde de paysans, c'est un monde de pêcheurs, c'est un monde de
vignerons.
de vignerons, exactement. C'est le monde des hommes et des femmes. Par exemple, quand Jésus raconte la parabole de la femme qui recherche un sou, une pièce d'un sou, et qui éclate de joie quand elle a le retrouvé. Ben oui, c'est la parabole des gens qui ont peu de moyens.
Et puis concrètement, du point de vue de la localisation, c'est quelque part, pour des gens qui seraient allés en Israël, dans la région de Capernaum, tout près de la mer de Galilée ou du lac de Tibériade, comme on dit aussi.
Exactement. C'est le peuple de Galilée. C'est le peuple de Galilée. Des riches apparaissent aussi et des propriétaires de vignobles, etc. Donc oui, c'est ce monde de la Galilée. Et alors, Jésus choisit des histoires qui se déroulent dans ce monde-là. Alors, souvent on dit, on le fait parce qu'il a choisi de parler du royaume qui est un concept abstrait. Il en parle avec des histoires faciles à comprendre. Mais non, pas du tout. Le choix du monde familier de Jésus, il est beaucoup plus important que ça. Rendez-vous compte, tout le monde parlait du règne de Dieu à l'époque de Jésus. Tout le monde. On le retrouve dans tous les écrits juifs, quelle que soit l'orientation du mouvement.
Il y a une attente très très forte. Il faut juste imaginer cette Galilée, mais aussi l'ensemble de l'Israël palestine occupée par les Romains. Et quelque part, il y a une aspiration très forte qui traverse le peuple à autre chose.
C'est une attente fébrile. Et cette attente fébrile que vous décrivez bien, elle est d'autant plus palpitante que la pression de l'occupation romaine se fait forte, que la pression de la présence des troupes impies qui foulent la Terre Sainte, et que le ressentiment, la colère monte. C'est d'ailleurs une colère qui va monter progressivement pour éclater 30 ans après la mort de Jésus, dans la première guerre juive. Et donc, dans ce monde du judaïsme, au temps de Jésus, où tout le monde parle du royaume, on en parle comment ? On en parle du royaume futur. On espère qu'il sera proche, mais c'est un royaume futur. C'est de la religion fiction. Et donc, on décrit de la manière la plus forte possible et colorée possible cette venue de Dieu à la fin des temps qui mettra un terme à l'histoire, qui écrasera les ennemis et les impies et qui restaurera enfin la grandeur d'Israël.
Et dans ce contexte-là, Jésus finalement conserve cette perspective-là, entre guillemets, eschatologique, comme on dit en langage un peu spécialisé, mais en même temps, il montre que le royaume, il est déjà là.
C'est la grande originalité de Jésus. C'est qu'au fond, le royaume n'est plus une espérance futuriste pour Jésus. Le royaume se déchiffre dans le présent, dans les petits commencements. Il se déchiffre là, et notamment dans son activité. Encore une fois, Jésus parle du royaume comme tout le monde, mais pour lui, la réalité du royaume, cette proximité de Dieu, elle est extrêmement proche. Les évangiles résument la prédication de Jésus en disant « Le royaume de Dieu s'est approché, convertissez-vous ». Il s'est approché, il s'est fait proche. On pourrait dire, au fond, l'ombre du royaume s'étend déjà sur le présent. Et il va le dire au travers de paraboles, par exemple, la parabole du grain de moutarde. Le grain de moutarde, c'est la semence, c'est légendairement la semence la plus petite qui soit. Et, dit Jésus, cette grain de moutarde, une fois qu'elle est plantée, elle devient un grand arbre et tous les oiseaux du ciel vont nicher dans ses branches. Alors, quand il dit un grand arbre, tous les oiseaux du ciel vont se nicher dans les branches, on a là une métaphore, une image classique qu'utilisaient les rabbis pour parler justement de ce royaume futur. Mais qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Il dit « Regardez, on est aujourd'hui non pas au temps de l'arbre, mais on est au temps de la petite graine. » Eh bien, cette petite graine, ce sont les débuts du royaume, ce sont les petits commencements, et Jésus fait là allusion à la manière dont, au travers de ses gestes de guérison, au travers de son discours vrai sur Dieu, au travers de son accueil des pécheurs et des malades, se concrétise le royaume. Vous voyez, au fond, il le rapproche du présent, et c'est pourquoi Jésus va, dans ses paraboles, utiliser les images du monde de ses auditeurs pour dire « Mais le royaume, n'allez pas le chercher à 14 heures. Il est là et il s'agit de le déchiffrer dans les gestes, dans les paroles, dans ce qui se passe autour de moi. » Personne au temps de Jésus, et plus tard d'ailleurs, aucun rabbi n'osera comparer le royaume à un grain de moutarde. Non, c'est le grand arbre. Parce qu'on attend un Dieu puissant, justement. On attend un Dieu puissant qui va enfin réaliser toute l'espérance religieuse d'Israël. Jésus dit non, 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 non. C'est dans les petits commencements qu'il se manifeste et qu'il ne s'agit pas de mépriser. C'est dans ces petits commencements-là. Mais attention, le grain de moutarde, il a en germe, il a en potentialité toute la grandeur du royaume à venir.
Et c'est ça finalement ce que vous appelez l'extravagance. Il y a quelque chose d'un côté de très ordinaire dans l'histoire, puis à un certain moment, il faut essayer de repérer quelque chose qui fait exploser un peu les cadres.
Tout à fait. Et effectivement, c'est cette extravagance de la parabole, au fond, parce que Jésus, utilisant des images qu'utilisait les rabbis, au fond, on les modifie, on tord le sens, au profit effectivement d'une prédication dont, encore une fois, le maître mot, c'est le royaume de Dieu s'est approché, c'est-à-dire Dieu est proche, il est proche de vous, c'est pas le lointain dont on n'ose pas prononcer le nom et qu'on n'ose pas imaginer, il est proche, il doit se concrétiser dans les gestes, dans les paroles, dans les espoirs quotidiens. C'est ça qui, pour Jésus, est capital. C'est-à-dire, Jésus a été, pourrait-on dire, un grand démocratiseur de Dieu.
Dans votre livre « Vie et destin de Jésus de Nazareth », Daniel Marguerat, vous dites aussi que finalement, la parabole rend visible le royaume de Dieu, qu'elle offre quelque part une clé d'interprétation par rapport à ce qui est en train de se passer avec Jésus. Alors, reprenons l'exemple de cet homme qui jette de la semence dans la terre, hein, dans Marc 4. Finalement, qu'est-ce que Jésus, au travers d'une telle parabole, vient dire à propos de lui-même ?
Alors, dans la parabole du semeur, qui figure au début du chapitre 4 de Marc, qu'on va retrouver en Matthieu 13, en Luc 10, cette parabole qui a été très très célèbre parmi les premiers chrétiens, raconte l'histoire d'un semeur qui sème le grain. Alors, il sème le grain, et puis du grain tombe sur du sol rocailleux, du grain tombe dans les broussailles, dans divers lieux dans lesquels il reste infécond, et il est étouffé ou il meurt de sécheresse. Et puis, une partie tombe dans la bonne terre. On se dit, mais enfin, le semeur qui fait comme ça, il travaille de manière absurde. Non, 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 parce que en Galilée, où le sol peut être effectivement rocailleux, un rocher affleurant, comme on le trouve par exemple dans la montagne, eh bien, c'est comme ça que travaille le paysan galiléen. Donc, le paysan qui écoute Jésus s'y reconnaît tout à fait. Qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus ? Il dit, au fond, le semeur qui est le porteur de la bonne parole, eh bien, il rencontre une grande partie d'échecs. Les gens, les fous, le monde refusent sa parole. Mais seule une petite partie de ses auditeurs, de ses auditrices, va recevoir cette parole, la faire descendre dans son cœur. Et alors, je reviens à la parabole du grain de moutarde, qui est une autre parabole agricole. C'est ça le petit commencement. Au moment où Jésus annonce le règne proche, les gens ont écarquillé les yeux, certainement, mais non, mais il est où ? Il est où ? Parce qu'eux, ils attendent un Dieu puissant venant avec fracas. Et Jésus dit non, 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 mon activité, ma prédication, elle est refusée par la majorité des gens. Mais il y a une petite partie dans laquelle ma parole descend dans leur cœur et les convertit. Vous savez, aujourd'hui, c'est pas très différent. Hein. Ne nous lamentons pas de la sécularisation. Jésus, à sa manière, parle au fond de l'échec majeur de la parole, mais rend attentif au fait que sa parole devient extrêmement féconde dans le cœur d'un petit nombre.
Il y a là une sorte de force irrépressible, hein, vous le dites régulièrement dans votre livre, de ce royaume de Dieu qui quelque part s'enracine et se déploie.
C'est une force irrépressible et Jésus, pour parler de la fécondité de la graine dans la bonne terre, utilise des chiffres démentiels, 60, 40 pour un, que ne connaissait pas la Galilée de son temps, mais pour dire c'est d'une fécondité totale. Donc il a cette confiance dans la parole de Dieu, sa force. Vous savez, dans la tradition d'Israël, la parole de Dieu, c'est pas un discours, c'est une force, c'est une énergie qui agit, qui travaille les cœurs. C'est donc une dynamique, et Jésus a cette confiance dans la dynamique de la parole qu'il lance par sa prédication et son action.
Well, I feel good, good, good. Well, I feel good. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, love, love. Well, I can love. Oh, yes, my Lord. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, good, good.
Yeah, yeah.
Well, I've got joy, joy, joy. Well, I've got joy down in my soul. Because there's something about the Spirit of Jesus. It gives me such joy, 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 joy. Well, I can sing, sing, sing. Well, I can sing, oh yes, my Lord.
Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me sing good, 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 good.
Well, I can serve, serve, serve.
I can serve,
oh yes, my Lord.
Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me serve good, 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 good.
Wait a minute. Do you feel good? Good, good. Do you feel good? Then clap your hands. Because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good.
Oh,
I feel good, good, good.
I feel good,
I feel good. Oh, yes, my Lord.
Because
there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, good, good.
C'était le groupe a cappella avec I Feel Good, un titre tiré de son album Sweet Fellowship. On retrouve maintenant Daniel Margera pour évoquer un autre type de parabole. Après les paraboles évidences, voici les paroles événementielles. Daniel Margera, on vient de faire un petit parcours autour d'un des deux types de paraboles, hein, ces paraboles agricoles ou ces paraboles évidences, comme vous le dites. Il y a un autre type de paraboles que Jésus utilise, ce sont ce que vous appelez les paraboles événementielles. Alors, en quoi consistent de telles paraboles ?
Alors, ce second type de parabole événementiel consiste en une histoire qui se déroule comme un épisode. Tout à l'heure, effectivement, on a parlé des paraboles agricoles. Maintenant, parabole événementielle, tenez, je prends l'exemple bien connu, la parabole des ouvriers de la 11e heure. Dans les ouvriers de la 11e heure, un patron de vignoble sort et puis il engage des ouvriers. Alors il engage les premiers ouvriers à 7 heures le matin, ensuite il ressort à 9 heures, puis à midi, puis à 15 heures et puis à 17 heures. La 11e heure du travail, il engage des ouvriers, il faut croire qu'il y avait plus de travail qu'il ne pensait, que la pluie menaçait ou un orage, que sais-je. Donc il y a le patron se livre à des embauches successives, là sur la place du village où se trouvaient les gens qui étaient chômeurs et qui n'étaient pas employés par d'autres. Et au moment de verser le salaire, qui est d'un denier par jour...
Mais c'est quelque chose qui a été convenu pour les ouvriers de la première heure.
Justement, pour les ouvriers la première heure, il a convenu d'un denier. C'est le salaire usuel. C'est le salaire standard. Et pour les autres, il dit, je vous donnerai ce qui est juste. Et évidemment, l'auditeur, l'auditrice de la parabole se dit, ok, d'accord, évidemment, les autres vont être payés moins. Et lors de la remise du salaire, les ouvriers qui ont commencé à travailler à 17 heures, donc ils n'ont travaillé qu'une heure, sont payés les premiers d'abord, ce qui est un peu provocateur, et ils reçoivent la même somme que ceux de la première heure.
Donc ils reçoivent un denier pour une heure de travail.
Pour une heure de travail, ce qui du coup rend furieux ceux de la première heure qui ont dit « Mais nous avons supporté le travail, sa pénibilité, la chaleur de toute la journée. »
Donc là, c'est ce que vous appelez l'extravagance, c'est-à-dire que Jésus raconte une parabole et tout à coup, il y a quelque chose qui fait exploser les cadres.
Absolument, parce qu'au fond... Qu'un patron de vigne ait besoin d'employer à la dernière minute des ouvriers, on est là dans la normalité de l'embauche. Ce qui fait exploser les cadres, c'est qu'au fond, chaque catégorie d'ouvriers reçoit un salaire identique. Et ça, effectivement, ça fait exploser le cadre. Et devant la colère que nous estimons légitimes des ouvriers de la première heure. Le maître, la parabole, dit « Écoute, j'ai le droit de faire de mon agent ce que je veux, mais surtout, est-ce que ton œil est mauvais parce que je suis bon ?» Hein? Et on a là, effectivement, une parabole dans laquelle quelque chose se casse et intervient effectivement un geste complètement extravagant, cette égalité du salaire, qui manifeste l'égale valeur, l'égale valorisation que le patron de la vigne accorde à chaque ouvrier. Et c'est l'image de l'égale valeur que Dieu accorde à chacun, à chaque individu. Et cette égale valeur, Jésus utilise pour la faire comprendre, une parabole choquante, parce qu'effectivement, il est choquant d'imaginer que Dieu accueille avec le même amour, avec le même intérêt, avec la même impatience, ceux que nous, dans nos catégories religieuses, nous taxons de croyants très pieux et très fidèles, et de mécréants. Et au fond, Jésus dit dans cette parabole extravagante, Jésus nivelle nos catégories. Il casse notre regard en nous invitant à considérer avec le même intérêt, avec la même dignité, les différentes catégories d'humanité. Jésus ne nivelle pas tous les hommes. Il veut dire, Dieu accorde la même chance à chacun. Il accorde la même chance à chacun de vivre avec lui le salut qu'il promet, de recevoir le pardon qu'il accorde. Et ça, effectivement, pour les croyants fidèles, pieux, c'est choquant.
Est-ce qu'il y a là, finalement, aussi une sorte de révélation, alors excusez le terme, c'est peut-être un petit peu trop chargé, mais finalement, d'invitation un peu miroir, c'est un terme que vous utilisez dans votre livre, pour permettre aux gens peu croyants et aux gens très croyants de comprendre ce qui est en train de se passer avec la personne de Jésus.
Oui, parce que Jésus a beaucoup choqué. Il a choqué parce qu'il a à la fois reçu et enseigné aux croyants très très fidèles, mais il a aussi accueilli à sa table, des gens qu'on considérait de mauvaise vie, des collecteurs d'impôts que l'on soupçonnait parce qu'ils collaboraient avec les Romains, des femmes dites de mauvaise vie, des gens qui n'avaient pas le temps, la possibilité d'accomplir leurs 3 prières par jour, etc. Donc, on voit à sa table, Jésus a accueilli tout le monde, sans préavis, sans condition, sans préalable. Ça n'est pas une manière de sanctifier le péché ou l'immoralité, pas du tout. Mais ce que Jésus veut faire comprendre, pas seulement dire, mais faire comprendre, c'est que Dieu accorde la même chance à chacun, que la grâce est offerte. Et c'est à partir du moment où chacun a reçu l'accueil et la grâce de Dieu, qu'il va transformer sa vie, qu'il va rendre sa vie conforme au pardon et à la grâce qu'il a reçue. Vous voyez, Jésus veut faire comprendre que l'homme, la femme n'ont pas besoin de s'habiller du dimanche pour être acceptés par Dieu.
Daniel Margera, on a eu l'occasion de faire un petit parcours là autour de ces deux types de paraboles que vous discernez parmi les 43 paraboles de Jésus que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Il y a donc d'un côté ces paraboles évidences, puis de l'autre ces paraboles événementielles. Finalement, en deux mots, une parabole, qu'est-ce que c'est ?
Une parabole, c'est le regard que Jésus offre sur le monde pour que nous y discernions les signes, les traces du royaume, ou si l'on préfère, que nous discernions les signes et les traces de la proximité de Dieu. Au fond, une parabole, c'est une paire de lunettes qui nous est offerte pour que nous puissions découvrir Dieu à l'œuvre dans le monde.
Il y a là, au travers de ce recours de Jésus aux paraboles, il y a là une stratégie de communication. Quelle est-elle ?
Ah oui, Jésus est un formidable communicateur parce que, au fond, il Par exemple, dans la parabole, il permet encore une fois à ses auditeurs et à ses auditrices de se reconnaître, de reconnaître leur monde, et tout d'un coup, parce que ça chavire, parce que l'extravagance se manifeste, parce que le père à qui son fils cadet a demandé une avance sur héritage et qui devrait ne plus rien avoir à faire avec lui, il l'accueille et il le réhabilite, parce que le roi qui dont le serviteur a une énorme dette, 10 000 talents, on parlerait de milliards aujourd'hui, il lui remet sa dette, etc. Donc, c'est cette extravagance de Dieu dans le monde, c'est ça, au fond, sa stratégie de communication. De telle manière que, vous voyez, par la parabole, au fond, Jésus ne s'adresse jamais directement aux gens. Il leur propose une histoire. Et cette histoire, elle est à prendre ou à laisser. Il n'y a jamais de terrorisme de la communication chez Jésus, il n'y a jamais de terrorisme du royaume, du genre « convertissez-vous ou vous serez exterminés à la venue de Dieu », jamais. C'est une proposition, c'est une offre. Il y a une force de proposition dans le discours de Jésus. Alors le discours de Jésus qui peut être en clair, je dirais, lorsque Jésus interprète la loi, mais dans les paraboles, véritablement, il offre de raconter une histoire à laquelle les gens vont adhérer ou pas. Il y a une liberté qui se manifeste. Et d'ailleurs, souvent, une parabole se termine par une question ou par une finale à laquelle c'est l'auditeur qui doit apporter la réponse.
Donc finalement, c'est vraiment une sorte de monde à habiter par chacun.
Oui, oui.
Avec la possibilité toujours, peut-être, de goûter à une espérance, de goûter finalement au fait que rien n'est jamais dit de manière définitive.
Oui, et de telle façon que la parabole est l'engage dans un mouvement, et l'engage à adopter un regard sur les autres. Tenez, la parabole des ouvriers de la 11e heure dont nous parlions tout à l'heure, elle est très, très provocatrice. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis consentant à ce que Dieu accorde la même valeur aux fidèles et aux mécréants, et comment est-ce que je vais traduire ça alors que toute mon éducation, toute ma culture, toute ma société me pousse au contraire à établir des catégories, à classifier et à discriminer. Est-ce que je suis d'accord d'entrer dans ce regard-là? Et peut-être que certaines fois je vais dire oui, et puis d'autres fois non, c'est trop fort que moi, et je dirai non. Donc la parabole est une invitation.
Merci à Daniel Marguerat de nous avoir reçus chez lui pour parler de l'un de ses derniers livres, « Vie et destin de Jésus de Nazareth », paru aux éditions du Cerf en 2019. Nous l'entendrons prochainement dans un air d'actu évoquer Jésus comme maître de sagesse. Ne manquez pas de nous retrouver à la même heure sur Radio Air, la radio musicale chrétienne. Vous pouvez aussi retrouver un air d'actu sur le site radio-air.ch. Chacune de nos émissions y est podcastée. Au plaisir de vous retrouver, à bientôt.
Un air d'actu avec Serge Carrel.